carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Gauthier Jurgensen.
Le 64e Festival de Cannes a ouvert ses portes ce mercredi 11 mai 2011. Au programme, il y a les nouveaux films de Terrence Malick, de Pedro Almodovar ou de Nanni Moretti. Mais celui qui a ouvert le Festival de Cannes, c'est Woody Allen avec son Minuit à Paris, tourné dans notre capitale l'été dernier. Souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a quelques mois. Le cinéaste ne perd pas la cadence, un film par an. Voilà donc le cru 2011 qui a suscité une effervescence folle puisque notre première dame, Carla Bruni, y campe un petit rôle. Côté français, on y retrouve aussi le comique Gad Elmaleh, Léa Seydoux et la star internationale maintenant Marion Cotillard. Il donne la réplique à Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen et Kathy Bates. Mais comme à notre habitude, laissons de côté le glamour et parlons du film, rien que du film. Woody Allen, le mystérieux, a laissé planer un soupçon de suspense autour de son nouveau film. Ni projection de presse, ni promotion avant de dévoiler son film à Cannes et au public simultanément, afin de garder la surprise de son scénario intact. Pourtant, Woody n'est pas un cinéaste du coup de théâtre, mais rassurez-vous, il y a bien une folle surprise dans le scénario. Une surprise qu'à mon grand chagrin, je vais devoir vous dévoiler si je veux vous parler du film, alors il est encore temps d'arrêter d'écouter cette chronique. Pour ceux qui veulent garder le mystère de la première projection, soit, mais si vous ne m'écoutez pas, courez au cinéma là maintenant tout de suite, jetez-vous sur Minuit à Paris, c'est formidable.
C'est incroyable! Regarde ça, il n'y a pas une autre ville au monde comme celle-là!
Toi, tu es amoureux d'un fantasme.
Moi, je suis amoureux de toi.
Mais qu'est-ce que vous faites ici?
Papa est ici pour affaires, alors nous on a décidé de jouer les parasites.
Oui. Super, on pourra passer un peu de temps ensemble.
Oh, eh bien, nous avons pas mal d'obligations, mais c'est pas, enfin, quand...
Quoi?
Le film raconte le voyage à Paris d'un écrivain américain, Jill, accompagné de sa future femme Inès et de ses beaux-parents. Presque traîné par le bras, il est contraint d'aller visiter le musée Rodin, Versailles ou Giverny avec des amis pédants qu'Inès a croisés par hasard. Ce n'est pas ça à Paris pour Jill, c'est pas non plus le hall de l'hôtel Bristol ou le shopping chez Dior. Pour Jill, Paris, c'est la pluie, les bâtiments éclairés la nuit et les longues balades solitaires dans les ruelles. Et surtout, c'est cette mystérieuse voiture à traction avant qui, tous les soirs à minuit, l'emporte vers son époque favorite, les années 1920. La voilà, cette trouvaille de scénario qu'il ne fallait pas dévoiler. Il est en effet question de voyage dans le temps dans Minuit à Paris. Il y a parfois de la magie chez Woody Allen, dans La Rose pourpre du Caire, par exemple, où les héros pouvaient sortir d'un film ou entrer dedans à leur guise. Ici, le personnage principal va côtoyer Scott Fitzgerald, Man Ray, Ernest Hemingway, T.S. Eliot, Henri Matisse, Salvador Dali, Juna Barnes ou Gertrude Stein, qui va même relire son dernier manuscrit et lui donner quelques conseils pour l'améliorer. Car même s'il ne peut emmener personne avec lui dans cet âge d'or qu'il admire tant, il a quand même la possibilité de nouer une véritable liaison amoureuse avec la muse de Picasso ou de souffler à l'oreille de Buñuel le scénario de L'Ange Exterminateur. Au-delà de la petite trouvaille amusante, cette surprise est un vrai soulagement. Pendant le premier quart d'heure, Woody Allen nous fait le film qu'on redoutait le plus. Un Paris de touristes américains qui s'extasient en prononçant avec leur accent tous les clichés habituels. La Sorbonne, Versailles, Giverny, Mont Saint-Michel, so amazing, so Paris. Ah, c'est quand on commence à en avoir absolument assez que le passé de fantaisie intervient. Nous voilà pris dans cette époque impossible où toute la Lost Generation se donnait rendez-vous à Paris pour boire, discuter et écouter du jazz.
Et une grande partie de l'œuvre de Rodin a été influencée par sa femme, Camille.
C'est Rose qui était sa femme.
Non, il n'a jamais épousé Rose.
J'espère que tu vas être moins asocial demain.
Et je dois avouer que moi, je suis bien moins séduit par lui que tu l'es. Mais c'est qu'un petit intello.
Il est un peu plus tannique que le 59. Je préfère une notion un peu fumée. Carole et moi, on va aller danser.
Oh.
On nous a parlé d'un super endroit. Intéressé?
Je ne veux pas jouer le rabat-joie, mais j'ai besoin de prendre un peu l'air.
Ce décalage se voit nécessairement dans la mise en scène. Cela passe d'abord par les éclairages. Dans le passé, les lumières sont tamisées et l'ambiance est plus chaude, les couleurs fauves prédominent. Dans le présent, tout est cru. Le grand soleil laisse la place la nuit aux néons blafards, au Paris, soit trop touristique, soit sans aucun intérêt. Les robes Dior que s'achètent les Américaines de 2010 sont déclassées, balayées, démodées par le charme et l'élégance des costumes des années folles. Cela passe aussi par des valeurs de cadre. Dans le présent, les musées se visitent en plan d'ensemble, les personnages deviennent tout petits dans l'immensité du décor, les touristes prétentieux récitent leurs leçons en tournant le dos aux ignares qui tentent vainement de prendre la parole. Dans le passé, au contraire, on s'assied autour d'une table. La focale, plus courte, cadre les acteurs de face et leur laisse le temps d'échanger dans de longs champs contre champs. C'est ainsi qu'on imagine une discussion parisienne dans un petit bistrot où les interlocuteurs s'écoutent et s'intéressent. Comme je vous le disais, le jazz revient aussi. Il y a particulièrement du Cole Porter, puisque le personnage de Cole Porter lui-même vient rendre visite au héros du film, mais aussi des grands standards charmants tels que Ain't She Sweet, composé en 1927 par Milton Ager et Jack Yellen, et même les thèmes les plus connus d'Offenbach pour évoquer un Paris encore plus ancien. Vous l'aurez compris, Minuit à Paris est un film sur la nostalgie, une nostalgie sans doute propre à Woody Allen. C'est en amoureux de Paris que le réalisateur nous explique ce qu'il ressent chez nous en se promenant dans des rues désertes pendant l'été. Quand la nuit vient, il suffit d'ajouter quelques voitures d'époque dans le champ pour que la reconstitution soit faite. Paris traverse les âges et reste la même. Pas dupe, Woody Allen sait aussi que l'amour du bon vieux temps est stérile. Ainsi, les personnages des années 20 aimeraient vivre eux-mêmes dans la belle époque, à l'époque où Degas et Toulouse-Lautrec se donnaient rendez-vous au Moulin Rouge et chez Maxim's. Mais ces derniers vous diraient sûrement que rien ne vaut la Renaissance, etc. Bref, chacun voit minuit à sa porte. C'est aussi peut-être pour se rassurer sur le présent que Woody Allen fait ce film et se donner confiance en l'avenir. Qui sait, peut-être que dans 100 ans, tout le monde regrettera cette belle époque bénie où Canal Academy n'en était qu'à ses débuts sur le web et où le jeune Gauthier Jurgensen venait enregistrer ses analyses lumineuses sur les derniers films des grands académiciens. Ah là là, vraiment, vivement l'avenir.
À quelle heure t'es rentré hier soir ?
Pas très tard. Je pense que je referai ce soir une de ces petites balades.
Où est-ce que Gil s'est encore enfui ?
C'est son nouveau truc de traîner dans Paris.
Tu crois qu'il va où, Gil, tous les soirs ?
Il marche et ça lui donne des idées.
Pourquoi es-tu si élégant ?
J'étais juste en train d'écrire.
Tu te sapes et tu mets du parfum pour écrire ?
Tu sais bien que je pense toujours mieux sous la douche, dont les ions très positifs font leur effet.
Je l'ai fait suivre par un détective.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne sais pas. L'agence de détective dit que le détective a disparu.
Je me trouve dans une situation très complexe.